Petit résumé, c'est le suivant, c'est que les mécanismes de défense, c'est simple, c'est un système pour le moi pour éviter la douleur. Donc, en fait, qui dit mécanisme de défense dit douleur qui est quelque part et qu'on essaye d'empêcher. Le problème, et c'est quand même pour ça qu'il faut les connaître, même si on ne va pas les travailler d'une façon importante, sauf quand ça deviendra encombrant. Le problème, c'est que ne pas reconnaître la douleur, c'est la maintenir. C'est en somme empêcher qu'elle puisse être résolue. Autrement dit, les mécanismes de défense, ils sont utiles pour l'enfant parce qu'il est encore trop démuni pour faire face à certaines situations déstructurantes. Donc il est obligé d'oublier, de mettre de côté, d'éjecter, etc., tout un tas de trucs de douleur. Et c'est comme ça qu'il réussit à traverser des situations difficiles. Mais en même temps, du coup, s'installent des noyaux douloureux qui sont sous la barre des mécanismes de défense, sous la couche des mécanismes de défense. Et ces noyaux douloureux, tant qu'ils ne sont pas vidés, tant qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être approchés, d'être exprimés, sont source de symptômes, un peu comme si on avait un abcès à l'intérieur de nous-mêmes, et que cet abcès donne de la fièvre, de la fatigue, des tas de trucs, et qu'on ne peut pas l'approcher parce qu'il y a tout un système pour protéger, tellement ça fait mal, quoi. Je ne veux pas qu'on s'approche de ça parce que ça me fait mal. Autrement dit, quand la thérapie va s'approcher de ce qui fait mal, eh bien, il va y avoir des défenses pour empêcher ça. Et pourtant, ces défenses, elles sont pas au service de la personne, puisque finalement, c'est seulement quand elle aura pu voir ce qui lui fait mal et vider ce noyau douloureux qu'elle pourra, à ce moment-là, aller mieux, qu'elle sera plus minée par quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Autrement dit, les mécanismes de défense sont nécessaires au départ pour la structuration du psychisme, et ensuite, ils sont un frein, un encombrement pour aller nettoyer les zones douloureuses dont on est porteur et qui sont elles-mêmes source de symptômes. Mais on en aura toujours des mécanismes de défense parce que de toute façon, on n'aime pas souffrir. Donc quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir ou qui va nous faire souffrir ou dont on sent que ça va nous faire souffrir, il va y avoir des mécanismes de défense. Toute la question c'est, est-ce que ces mécanismes de défense sont lourds ou légers? S'ils sont lourds, ils viennent carrément déformer la perception de soi-même, des autres et de la réalité. S'ils sont légers, ça permet juste de gérer la douleur sans trop venir encombrer sa perception de la réalité. Là, je vous ai mis un exemple du fait que les mécanismes de défense sont plus ou moins profonds et donc plus ou moins déterminants sur la pathologie de la personne. Plus ils sont profonds, plus ils sont destructeurs. Exemple, le déni porte sur la réalité. Je ne veux pas voir que c'est comme ça. C'est carrément une espèce de zone aveugle. C'est un refus de voir que quelque chose existe, le déni. Et c'est un refus aussi de voir que quelque chose existe à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, ça donne le clivage. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est totalement en dehors de la possibilité d'être perçue. Ce déni et ce clivage sont reliés à un troisième mécanisme de défense qui est l'identification projective. Puisque ça n'est absolument pas à l'intérieur de moi et que ça n'existe pas, eh bien en réalité c'est chez l'autre. Et chez l'autre, je le mets chez l'autre. C'est toi qui m'induis à faire ça, mais moi ça n'existe pas chez moi, etc. Donc le clivage, le déni et l'identification projective empêche d'une façon grave le fait de pouvoir repérer ce qui se passe en soi et repérer la réalité relationnelle, puisqu'on déforme la réalité relationnelle aussi. C'est plus lourd que le refoulement. Le refoulement, c'est simplement j'oublie. J'oublie que ça existe en moi. Donc du coup, c'est pas je me bave frénétiquement pour dénier qu'il y ait quoi que ce soit de ça en moi, c'est je l'oublie. Donc je l'évacue, mais je l'évacue à l'intérieur de moi, dans une zone, c'est en prison, mais dans une zone à l'intérieur de moi, c'est pas évacué chez l'autre. Donc c'est déjà moins perturbant dans la perception du monde et de soi-même, puisque c'est simplement que j'ai oublié. La dénégation est encore moins inconsciente. La dénégation, ça consiste à dire quelque chose qu'on ressent, mais à l'entourer de ne pas. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un « qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça ?» et qu'elle vous répond « ça ne me met pas en colère », ça veut dire que la première chose à laquelle elle a pensé, c'est la colère. Et que simplement, elle met entre « ne pas » pour essayer de ne pas être trop confronté à ça. Mais en fait, une dénégation, c'est pas du tout un déni. C'est finalement, elle n'est pas si loin que ça de percevoir sa colère. Simplement, elle met « ne pas ». Ça ne me rend pas triste. Bon, ça veut dire qu'elle est triste, qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à le reconnaître. Donc la dénégation, c'est un mécanisme de défense relativement léger, puisque finalement, c'est pas si loin que ça du conscient. On pourrait dire que c'est une reconnaissance préconsciente de l'affect en question. Et puis, le dernier mécanisme de défense le plus léger, c'est la mise à l'écart, c'est-à-dire je suis conscient que ceci m'ennuie, me fait mal, me tracasse, mais j'y penserai à un autre moment. C'est pas le moment, j'y penserai tout à l'heure, j'y penserai demain, je veux pas y penser. Donc je suis conscient, mais je décide d'une façon consciente et volontaire que c'est pas le moment pour moi d'y penser. Ben, vous voyez que suivant la profondeur du mécanisme de défense, il est plus ou moins déstructurant vis-à-vis du moi ou vis-à-vis de la réalité. Mais en fait, ils sont tous plus ou moins reliés, simplement, ils sont plus ou moins légers, quoi. Et donc, on n'est pas malade de ces mécanismes de défense, on est malade de la lourdeur de certains mécanismes de défense. Mais par exemple, si on a la mise à l'écart, si on a l'humour, si on a la sublimation, c'est tous des mécanismes de défense qui sont très utiles, qui sont finalement très légers et qui permettent de faire face à un minimum de douleur. Alors, donc, ça c'est première idée, c'est que finalement tous les mécanismes de défense ont été bâtis contre la douleur, mais qu'ils sont plus ou moins lourds. Si on a affaire à quelqu'un qui a des lourds mécanismes de défense, on aura des lourds symptômes. Par exemple, le déni, le clivage, l'identification projective sont plutôt des mécanismes de borderline ou psychotique. Même chose, par exemple, si on voit un certain nombre de mécanismes de défense comme l'incorporation, l'introjection, l'identification et l'imitation. L'incorporation, c'est carrément ce que l'autre est, je le fais devenir moi-même. C'est presque comme quand on incorpore une nourriture et qu'on la détruit pour la transformer dans notre propre corps. Le corps de l'autre devient mon corps. Ça, c'est vraiment l'incorporation et c'est les premières bases de la construction de l'identité de l'enfant. L'introjection, c'est la même chose, mais c'est déjà avec une petite distance par rapport entre moi et l'autre. L'identification, c'est encore inconscient, c'est-à-dire je suis comme l'autre, mais je ne m'en rends pas compte. Mais malgré tout, on pourrait plus facilement le repérer comme étant l'autre en moi. Par exemple, l'identification à l'agresseur, c'est une partie de moi se comporte exactement comme l'agresseur s'est comporté. Se comporte à l'intérieur de moi envers moi et se comporte à l'extérieur de moi envers les autres. Mais je pourrais, à un moment donné, avec l'aide d'un thérapeute, repérer que ça, c'est une identification et que ça n'est pas moi. Alors que l'incorporation et l'introjection sont plus difficiles à repérer. Et puis, bien entendu, l'imitation, préconscience, c'est-à-dire j'imite l'autre, je ne m'en rends pas vraiment compte, mais en fait, il suffirait qu'on me le dise pour que je m'en rende compte. À ce moment-là, l'autre est présent en moi, mais à minima. Donc là, on a une problématique qui se voit souvent au niveau hystérique, c'est-à-dire qui suis-je ? Est-ce que je suis l'autre ? Est-ce que j'imite l'autre ? Est-ce que je suis moi ? Voilà, avec tout un tas de choses concernant le regard de l'autre pour trouver sa propre identité. D'autres mécanismes qui sont plus obsessionnels, c'est par exemple l'isolation et l'annulation rétroactive. L'isolation, ça consiste à essayer d'empêcher que les choses se touchent à l'intérieur de soi-même et en particulier que les représentations se relient aux affects. Donc souvent, on va simplement décrire quelque chose qu'on est en train de penser, mais en évitant qu'il y ait des affects. Ce qui va donner, du coup, un style assez intellectualisation. Vous allez avoir quelqu'un qui est froid, qui a peu d'affect, qui décrit les choses comme un comptable et qui est toujours dans un truc très mental. L'annulation rétroactive, c'est un système encore plus au point que l'isolation. Enfin, c'est pareil, c'est le même but. C'est d'essayer d'empêcher que les choses aient du sens en prenant le contraire. Donc, c'est par exemple les tocs. Les tocs, quand je fais une espèce de geste magique, j'annule la pensée qui a précédé, ou j'annule l'action qui a précédé. En fait, pourquoi c'est obsédant les tocs ? C'est parce que ça a pour but d'essayer d'empêcher magiquement que ce qui a été pensé ou ce qui a été fait ait été pensé ou ait été fait. Donc du coup, il faut absolument que je fasse 3 pas ou que je revérifie 4 fois la boîte aux lettres que je viens de fermer, etc. Ben, c'est pour éviter quelque chose qui s'est passé à un moment donné précédemment et qui a été soit un geste, soit une pensée, qui risque d'être chargé de sens symbolique. Donc il y a une espèce de système magique pour annuler les choses. Ça rejoint des trucs religieux. C'est vrai que par exemple, je vais dire 3 pater et 3 ave, 3 je vous salue Marie et 3 et ça va annuler les choses que j'ai pu faire ou que j'ai pu penser. Donc c'est un système d'annulation magique. Et en fait, dans l'obsession, dans la névrose obsessionnelle, il y a beaucoup de pensées magiques. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme si la pensée pouvait être triturée et faire que les choses n'aient pas eu lieu. Donc si j'ai un système d'annulation rétroactive et d'isolation, je vais me présenter comme quelqu'un de très froid, avec en même temps des tas d'obsessions et des tas de tocs dont je ne sais pas pourquoi ils sont là, et d'intellectualisation très chiante. C'est assez chiant quand on a quelqu'un qui est obsessionnel, parce qu'on sent un espèce de discours vide, désaffectivé, voilà. Et puis ça se rejoint à un autre mécanisme qui est la rationalisation. La rationalisation, ça consiste à donner une bonne raison à un comportement qui en fait a d'autres racines. Donc j'ai fait ça parce que c'est lié à tel et tel aspect pulsionnel de moi, et puis je donne une rationalisation, c'est-à-dire une bonne raison qui masque, qui me masque et qui masque aux autres, c'est surtout à moi que ça masque, la réalité de l'origine du comportement. Vous voyez, c'est tout un tas de systèmes pour empêcher que les choses aient le sens qu'elles veulent dire. Et puis, donc là, on a vu hystérique, obsessionnel, il y a des défenses de caractère. Défense de caractère, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est-à-dire, souvent, c'est en fait un certain style qui a été plus ou moins blindé, quoi. C'est toujours, on sait que la personne va toujours réagir de la même manière. En général, il y a 4 types de mécanismes qui sont reliés. Il y a quelque chose, il y a un refoulement vis-à-vis d'une pulsion, d'un désir, d'un fantasme interdit. Donc il est oublié, mais pour être sûr d'être oublié, il y a un contre-investissement, c'est-à-dire je vais investir une activité qui va justement empêcher que ceux qui risqueraient de venir, si jamais le refoulement cédait, puissent arriver. Mettons, je vais être passionnément intéressé par une collection de timbres sur laquelle je vais passer des heures et des heures le soir, ce qui évitera que j'ai un problème pour coucher avec ma femme ou pour me coucher avec mon mari. Et donc, en fait, l'idée, c'est que j'investis massivement quelque chose dont la fonction est d'empêcher le surgissement d'autres choses. Ce qui est assez proche de la formation réactionnelle, mais sans être exactement la même chose. La formation réactionnelle, c'est je prends carrément le contre-pied de ce que je désire faire mais que je trouve interdit. Donc par exemple, la formation réactionnelle vis-à-vis d'un désir de foutre ma merde de partout, c'est d'être hyper propre, hyper organisé. Si la formation réactionnelle, c'est formation réactionnelle contre mon agressivité, c'est d'être hyper poli. Quelqu'un qui est toujours très poli, très onctueux, etc. Il y a un côté, on sent que c'est un côté presque excessif dans la formation réactionnelle. Justement, c'est excessif parce que c'est complètement dans l'autre sens. Et puis, de temps en temps, ça va craquer. De temps en temps, il y a un gros, un brutal retour du refoulé. qui va souvent, souvent l'information réactionnelle s'appuie sur le renversement son contraire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai des désirs sadiques, eh bien, je vais transformer ça en masochisme. Comme ça, au moins, je serai sûr de ne pas être sadique. Mais du coup, je vais peut-être avoir une formation réactionnelle qui sera finalement tellement gentille que ça suscite les coups de pied au cul des autres. Hein? Tout ça, ça va donner un style de caractère qui, en fait, est lié en profondeur à tout ça, au refoulement de quelque chose qui est trop interdit, parce que, soi-disant, si on laissait venir ce genre de pulsion, ce genre de fantasme, ce genre d'idée, ce serait terrible. Donc, en fait, vous voyez que les mécanismes de défense, finalement, c'est, ils ont tous des liens les uns avec les autres. Alors, la difficulté de ce livre, si vous pouvez le lire, vous verrez qu'il est intéressant, mais enfin, il est un peu jargonesque. La difficulté de ce livre, c'est qu'il se contente de les donner par ordre alphabétique, sans les structurer comme profondeur, comme défense vis-à-vis de tel truc, etc. De toute façon, c'est bon à connaître pour briller dans les salons, mais ce n'est pas d'une importance capitale dans votre travail de thérapeute, parce qu'il y a un risque, dès que vous avez repéré un mécanisme de défense, de trop vous focaliser dessus. Hein? Alors maintenant, je vais quand même en reprendre certains que vous avez pu ne pas comprendre. Le clivage du moi, c'est lié au déni. Le contre-investissement, la dénégation, donc, qui est différente du déni. Hein? Le déni est beaucoup plus lourd que la dénégation. Hein? La formation réactionnelle, l'humour. L'humour, c'est un mécanisme léger et intéressant. Mais malgré tout, il y a des gens pour lesquels c'est vraiment chiant. Quoi qu'il arrive, ils font de l'humour. Et en fait, on sent bien que c'est une façon d'éviter la vérité de l'émotion. L'ironie, c'est se moquer de l'autre. L'humour, c'est se moquer de soi-même. L'humour juif, c'est se moquer de soi-même avec beaucoup de subtilité. L'ironie, c'est se moquer de l'autre. C'est plus agressif, l'ironie. C'est un mécanisme de défense en sens que c'est... C'est évacuer chez l'autre, voilà, c'est projeter chez l'autre ce qu'on ne veut pas voir en soi. L'identification, d'accord, l'identification à l'agresseur, l'identification projective, hein, mettre chez l'autre, l'intellectualisation, l'introjection, l'isolation, vous voyez qu'on a un peu la mise à l'écart. Bon, la projection, vous connaissez ça, c'est de voir chez l'autre ce qu'on ne veut pas voir en soi. Le grand truc classique. Et en fait, la difficulté, c'est que du coup, enfin, on va à la chasse chez l'autre de ce qui est à l'intérieur de soi, alors qu'en réalité, tout s'apaiserait si on pouvait le reconnaître en soi et le traiter en soi, lui donner une petite part. Rationalisation, bon, voilà, c'est une façon de... Je vous avais donné déjà l'exemple qui était fait par Charcot, d'hypnotiser quelqu'un, lui dire d'ouvrir son parapluie alors qu'il fait chaud, non. Ben, par exemple, si tu veux, du temps de l'hypnose classique, il y avait un des exemples possibles, c'était une personne est hypnotisée par l'hypnotiseur et puis on lui donne l'ordre d'ouvrir son parapluie à telle heure, à tel moment. Et par exemple, si on est ici, on lui donne l'ordre d'ouvrir son parapluie à 17h, où qu'elle soit. Et la personne ensuite, elle oublie. On lui donne l'ordre d'oublier, elle a oublié. Donc elle ne sait pas qu'elle est porteuse de cet ordre, elle l'a complètement oublié, ce qui est le refoulement. Et à 17h, au milieu d'une assemblée attentive, elle se lève, elle va prendre son parapluie, elle l'ouvre. Alors on dit, attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Pourquoi tu... on est en plein en train de travailler, tu... Ah ben oui, mais... Je me suis demandé s'il n'allait pas pleuvoir quand même et j'ai pensé que j'allais vérifier mon parapluie pour voir s'il fonctionne normalement. Eh bien, cette personne, elle croit que c'est vrai. En fait, elle se raconte une histoire pour essayer de justifier son comportement qui lui-même est issu d'autre chose, qui est issu de l'ordre qui a été donné, qu'elle a oublié, qui a refoulé. Ben, ça, c'est typique. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de comportements qui en réalité sont issus d'autre chose, qu'on rationalise. Et alors ce qui est quand même un petit critère, c'est que quand la personne dit ça, elle a en même temps des signaux physiques. Ouais. Elle n'est pas très bien, quelque chose, elle a des transpirations, elle ne se sent pas bien et tout. En fait, il y a son corps qui lui dit, t'es en train de raconter n'importe quoi. Arrête de raconter des conneries, c'est pas pour ça que tu le fais. Donc il y a quand même quelque part un signal du fait que c'est faux, mais au niveau du mental, la personne, elle pense que c'est pour ça qu'elle le fait. Et bien après, elle va s'interroger pendant je ne sais pas combien de temps, mais pourquoi j'ai été vérifier mon parapluie au milieu de l'après-midi alors qu'il ne faisait même pas de pluie et tout. Voilà, ben, il y a des, par exemple, les injonctions dont on est porteur vont nous pousser à faire tel et tel comportement, et ensuite on va donner une belle couche rationalisante là-dessus. C'est intéressant de savoir, parce que ça veut dire que ce que la personne raconte et se raconte, ça peut très bien être complètement faux. Ça peut très bien être juste du baratin destiné à emballer, à essayer de donner une allure justifiée à un comportement qui vient d'autre chose et qui est lié à un refoulement. Refuge dans la rêverie, bon, ben, ça c'est plutôt facile quoi, comme mécanisme de défense, et se récupérer par... c'est se donner du plaisir par la rêverie, c'est-à-dire la plupart du temps la rêverie c'est une sorte de fantasme bienveillant un peu, c'est comme un doudou, c'est comme sucer son pouce quoi. La régression, ben, ça existe chez tout le monde, mais il y a des moments où on régresse. Mais régresser au sens propre, ça veut dire se comporter comme l'enfant qu'on a été à tel et tel moment. Mais on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire on a l'impression que c'est justifié, que c'est normal, que c'est comme ça maintenant, alors qu'en réalité, d'une certaine manière, on est en train de revivre exactement des vécus infantiles. Donc c'est utile, par exemple, dans la cure, parce qu'il y a des moments où la personne elle est en train de revivre des trucs infantiles, et qu'elle va terminer autrement dans la relation actuelle avec le transfert. Renversement son contraire, ben voilà, on l'a vu tout à l'heure. Retournement contre soi-même. Alors, ça, c'est souvent une façon de se faire mal à soi-même, à défaut de faire mal à l'autre, par exemple. La dépression, c'est très souvent de l'agressivité retournée contre soi-même. Et quelquefois, les gens sortent de la dépression quand ils commencent à oser être agressifs vis-à-vis de leur entourage au lieu de l'être vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc c'est un retournement contre soi-même. Retrait apathique, bon bah ça c'est pas difficile de comprendre quel est le mécanisme de défense, c'est se réfugier dans une espèce de bulle, quoi, d'isolation. Et qu'est-ce qu'il y a encore après ? La sublimation. Alors la sublimation, ça fait partie des mécanismes utiles au moi, c'est-à-dire c'est réaliser la pulsion interdite sous une forme socialement acceptable. Par exemple, un enfant qui a longtemps dormi dans la chambre de ses parents, qui, mine de rien, essayait de les voir quand il faisait l'amour, quand il entendait des bruits bizarres et tout, qui regardait un peu en douce par-dessus le bord de son berceau ou de son petit lit, et qui ensuite a refoulé tout ça, parce que c'est quand même pas bien, qu'il y a quelque chose comme une espèce d'interdit sur le voyeurisme intense de cette période, ben, ça peut donner... un grand photographe, un grand cinéaste, ça peut être plutôt un psychologue qui est branché sur les tests, parce que tu vois ce que l'autre a dans les tripes. Ça peut donner un gynécologue qui va aller voir là-bas dedans comment ça se passe. Voilà, donc quand la pulsion est satisfaite socialement, par exemple, le grand photographe, ou même le photographe tout court, il n'a pas besoin d'être grand, eh bien, il satisfait sa pulsion directement, mais c'est socialement acceptable. Donc ça passe très bien, et du coup, c'est un mécanisme de défense utile, parce que tu transformes en un truc socialement acceptable et créatif quelque chose qui, en fait, est du... Mais c'est pour ça que tu tiens tant. C'est pour ça que tu es accroché à ton truc, parce qu'il y a un bénéfice, voilà, un bénéfice pulsionnel important. Si tu désires... découper l'autre en morceaux à grands coups de couteau, tu deviens boucher ou chirurgien. Chirurgien, c'est socialement acceptable.
Ah oui, c'est...
Et donc, si tu ne fais pas, tu deviens assassin, alors.
Alors,
si tu n'as pas satisfait ta...
Eh ben, si tu n'as pas trouvé la sublimation, non, il y a de fortes chances pour que tu refoules, que tu fasses une formation réactionnelle massive, et non seulement tu découpes pas l'autre en morceaux, mais tu es tout le temps gentil, à un point tellement dégoulinant que ça en devient difficilement supportable, ce qui est une façon de te garantir à toi-même que jamais tu feras ça. Voilà. Mais c'est mieux d'être chirurgien que d'être dégoulinant de politesse, par exemple. Hein? Donc, voilà, il y a plein de choses socialement acceptables qui sont en fait de la pure pulsion infantile. Ouais. Des trucs sadomasochistes, des voyeuristes, exhibitionnistes, etc. Tout ça, ça peut passer socialement acceptable.
Quand c'est flic, alors c'est quoi ?
La plupart du temps, c'est avoir subi une loi extrêmement rigide. Et du coup, devenir soi-même porteur de cette loi pour éviter de la subir. C'est-à-dire, c'est le renversement sans contraire. C'est moi qui deviens l'acteur de cette loi extrêmement rigide, et du coup, je serai un flic extrêmement rigide, par exemple, comme une façon de m'assurer que je ne suis pas celui qui subit quelque chose qui a été extrêmement dur de la part d'un parent. On est toujours avec la même idée, quoi. Il y a un certain nombre de choses infantiles en nous, et avec lesquels il faut faire. Et une des meilleures façons de faire, c'est quand même la sublimation, par exemple. Mais à ce moment-là, ça donne que tu es passionné par ce que tu fais, parce qu'il y a un bénéfice pulsionnel important.
Et découper l'autre, ça vient de quoi, avoir envie de découper l'autre ?
Ça vient de trucs très primaires, où tu es dans une rage profonde de voir que l'autre, tu en es dépendant. Quand le petit... bébé commence à découvrir qu'il n'est pas le centre du monde, qu'il n'est pas tout puissant et qu'au contraire il est une pauvre petite chose dépendante d'une mère qui peut venir ou pas venir, qui a ses humeurs, etc. Il y a une espèce de rage insupportable, quoi. Alors par exemple, ça peut être cette rage, ou ça peut être le désir d'aller voir ce que l'autre a dans le ventre, parce que souvent ce que la mère a dans le ventre, par exemple, il peut y avoir des désirs d'aller tuer le fœtus dans le ventre de la mère quand tu as un frère ou une sœur qui commence à se pointer. Donc il y a des choses très archaïques. Mais plus le psychisme est infantile, plus les affects sont violents. C'est du brut de décoffrage, puisqu'il n'y a pas une régulation interne par tout un tas de systèmes symboliques pour essayer de combler ça et de le calmer à peu près. Donc si tu veux, les vécus très primaires des petits-enfants sont très violents. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre des mécanismes de défense lourds, parce que c'est submergent, quoi. Et souvent, c'est le parent qui récupère cette violence et qui la calme, d'une part en lui donnant du sens, d'autre part en posant des limites. Ce qui fait que les limites que l'enfant ne peut pas se poser à ses propres fantasmes, eh bien, ça le rassure de voir qu'elles sont posées par le parent, même si c'est frustrant, quoi, quelque chose comme ça. Donc la violence existe en nous. Le désir que l'autre soit totalement à notre service. Qui parmi vous n'a pas connu ça ? En particulier quand on a un bébé de 2-3 mois, eh ben vous savez que vous êtes totalement à son service. Et que c'est lui qui commande. Les rythmes, ce n'est pas les vôtres. Hein. Vous vous levez 3 fois la nuit. Le matin, vous êtes réveillé à 6h du matin. Les grasses mat, faut oublier. Donc, vous avez affaire à un véritable tyran domestique. Et vous acceptez d'y être soumis, parce que vous savez bien qu'il faut bien lui donner tout ce qu'il a besoin. Mais nous, on a tous été des tyrans domestiques. Tu l'as été ne serait-ce que quelques mois, sinon tu ne serais pas là. Donc il y a quand même une partie de toi qui désire que l'autre, le monde, ton conjoint, les mecs, les femmes, etc., soient totalement à ton service. Et malheureusement, tu t'aperçois que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a un désir infantile qui existe chez nous. Une rage contre la réalité, une rage contre le fait que l'autre soit pas conforme à nos attentes. Et il va falloir apprendre à faire avec ça, ce que je vous avais dit une fois à propos de la frustration. Et donc, ça fait des douleurs et ça fait des violences. Et ces douleurs et ces violences, faut les traiter. Sinon, c'est insupportable d'être tout le temps là-dedans. Une des premières façons de les traiter, c'est de les oublier, par exemple. Le refoulement. À ce moment-là, bon, si j'y pense plus, ça me fait moins mal, quoi, et ainsi de suite. Mais après, ça laisse sous la barre des trucs qui restent là et qui viennent polluer notre style relationnel, notre façon d'être avec la hiérarchie, notre façon d'être avec l'argent, notre façon d'être avec le monde. Tout est influencé plus ou moins positivement par ces traces infantiles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux niveaux. Ce qui apparaît, la rationalisation, et puis ce qui en fait est à l'origine, qui est très souvent de l'infantile. Et c'est cet infantile-là qu'il va falloir faire avec. D'où, par exemple, toutes les approches qui parlent de l'enfant en soi. Mais le problème, c'est que l'enfant en soi, c'est celui qui est perceptible. Là où c'est difficile, c'est quand il n'est pas perceptible, quand c'est vraiment archaïque. Voilà, donc, désormais, vous allez potasser ça, vous connaîtrez tous les mécanismes de défense par cœur, vous les repérerez, les limites de la thérapie. Bref, tu vas dans une certaine couche de défense, mais il y a un certain niveau de défense où tu ne peux pas aller. Bon, alors si c'est pas trop lourd, si les mécanismes de défense sont pas trop lourds, bah, ça suffit. Sinon, bah, ça tiendra pas. Donc la personne ensuite, elle aura le choix entre faire plusieurs fois de suite un soutien en thérapie brève, ce qui est aussi pas mal. Mais malgré tout, si elle veut vraiment dénouer certaines choses qui sont récurrentes et qui sont véritablement handicapantes, à un moment donné, il faudra qu'elle fasse une thérapie longue.
Et comment nous,
mais tout le monde l'a pas, quoi.
On peut jauger, enfin c'est vous, nous qui allons jauger, voilà. Je pense que c'est le client. En fait.
Exactement. Vous, vous faites votre boulot. Et si ça suffit au client, ben c'est très bien, il va mieux, il a changé des trucs et tout, et puis vous verrez bien après. Et par contre, si ça ne suffit pas, si vous voyez que ça patine, si vous voyez que... Ou qu'au contraire, à un moment donné, la personne, elle se dit « Mais au fond, peut-être que je pourrais faire un truc plus analytique. » À ce moment-là, vous envoyez sur une collègue. À charge pour elle de vous renvoyer du monde. Bon, là, on est à la frontière, évidemment, hein, entre thérapie brève et thérapie profonde.
Il y avait juste dans le déni... notre cher Lacan parlait de forclusion, on en avait parlé à un moment.
Ouais,
je
ne
sais
plus
ce que ça veut dire déjà.
Ben, si tu veux, ce que veut dire Lacan par la forclusion, il compare ça quand tu fais un vêtement, que tu tricotes un vêtement, et puis il y a des endroits où tu n'as pas fait les mailles nécessaires.
Tu as loupé une maille, hein? Tu n'as pas un trou.
Voilà, tu as fait un trou. Et ouais. Ce trou.
C'est con! <bien. rire>
ce trou, c'est la forclusion. C'est-à-dire qu'il est dans la structure même, et tu faudrait tout refaire pour pouvoir
pour reprendre la maille.
Voilà, alors il parle, voilà, exactement. Donc il parle de forclusion, et qui est en somme un mécanisme lourd. D'ailleurs, c'est plutôt dans les psychoses qu'il en parle.
Oui,
parce qu'il y a comme une espèce de manque de fond que tu n'arrives pas à rattraper, quoi. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus vouloir tout traiter. On va faire bien son boulot, et puis voilà, chacun son espace. Bon, allez, peut-être 5 minutes d'abord de remarques sur ce que je viens de dire, et ensuite une petite pause.
Nous, on avait vu une expression, là, PC, quelque chose.
Ah oui,
préconscient.
Préconscient.
Ah, ouais. Préconscient. Ben, je vous redis ce que je vous ai déjà dit. Hein. Il y a conscient, préconscient, inconscient. Entre l'inconscient et le préconscient, il y a une barrière, il y a une frontière assez hermétique. Entre le préconscient et le conscient, il y a une frontière assez poreuse. Donc souvent, des fois, on parle du système conscient-préconscient. Et en fait, quand quelque chose est inconscient, tu ne peux pas le faire passer brusquement vers le conscient sans qu'il passe par le sas du préconscient. C'est-à-dire que si on interprète à quelqu'un « Ah, mais toi, tu es en train de faire ça pour telle raison » et que c'est juste... Il y a deux options, soit la personne est fracturée, ah ouais, c'est vrai, j'aurais jamais pensé, mais c'est bien ça, etc. Et du coup, après, c'est devenu, parce que ça a été trop violent. Soit, la plupart du temps, c'est plutôt, non mais attends, t'es complètement brinzingue, c'est jamais, c'est pas du tout ce qui se passe en moi. Donc, elle renforce ses défenses. En fait, pour que quelque chose que vous percevez, vous, avec votre œil de thérapeute, voilà.
Un gay.
Qui est extrêmement lucide et qui voit tout. Vous percevez un système inconscient, un mécanisme de défense qui est oblitère, le moi, la vision de la réalité, etc. Et vous allez essayer progressivement, par petites touches, de faire apparaître dans des comportements, dans des façons de dire, dans des façons de faire, etc. Quelque chose qui est en rapport avec l'inconscient, mais qui est juste une petite touche légère. Jusqu'à ce qu'il y en ait tellement des petites touches légères que ça finisse par faire un gros truc qui va faire pression pour être quasiment conscient. Et qu'à ce moment-là, vous pouvez interpréter éventuellement. Mais l'interprétation dans ce cas-là, c'est juste une petite pichenette finale. En réalité, vous avez déjà fait tout un travail préparatoire. Alors ça, c'est le grand truc en général des thérapeutes débutants, de faire des interprétations sauvages. C'est-à-dire... Oh ben mets-toi, etc. Alors donc du coup, bon, on s'amuse à ça, mais c'est pas forcément très efficace.
les thérapies du style Cribrimol, tout ça, c'était des... ça fracturait comme ça
Oui, ça fracture ça. Un peu, ouais.
Les thérapies quoi
ouais. Cribrimol et autres. Ouais.
C'est pour ça que du coup, il faut que ça soit hyper encadré, en groupe, ou avec un lien très étroit, etc. Parce que c'est... tu fais sortir brutalement des trucs, quoi. Le rebirth, avec la respiration intensive, ça fait monter de force les choses. Et si ce n'est pas traité dans un contexte qui va aider la personne à contenir et à ne pas être... ça peut la faire partir un peu en morceaux, quoi. Hein. Et l'expérience assez fréquente, c'est que les gens, par exemple, ils font du rebirth intensif et puis ensuite, ils vont très mal, quoi. Mmh. Voilà. S'ils n'ont pas été encadrés par des gens qui ont une compréhension plus fine de ce qui se joue et qui sont capables de donner le contenant nécessaire pour que la personne puisse intégrer cette expérience qui monte, là c'est un peu délicat.
Il y a des gens qui jouent avec le rebirth
comme...
J'ai vu des cas, franchement ça m'a fait peur.
Ils ont compris la technique qui est hyper simple. Vous allez faire de la respiration. C'est pas compliqué du tout. Et d'un seul coup, il y a des trucs qui montent, etc. Et les gens sont submergés par des trucs.
J'étais dans un stage où une femme, ils nous avaient proposé du rebirth, moi j'avais pas voulu, parce que la personne, elle n'était pas franchement formée. Et cette femme, elle a revécu un viol, mais c'était un truc horrible, quoi. Elle est partie dans un trip, mais vraiment, c'est dangereux.
Après, elle a été se récupérer chez un autre thérapeute.
C'est horrible. Après, c'est HP intensif.
Non,
mais oui,
ça peut. C'est les erreurs de gens qui n'ont pas compris le système psychique qui exige une certaine lenteur. C'est aussi pour ça que même en thérapie brève, il va falloir quelques séances pour que la personne s'approche de certains trucs avant de pouvoir les changer.
Le travail du rêve... éveillé, c'est dans le préconscient.
Voilà. Ça met en forme quelque chose de l'inconscient, mais sous une forme suffisamment masquée pour que ça soit supportable.
D'accord.
Et que du coup, le conscient ensuite le récupère dans le sens de ce que ça peut bien vouloir me dire, etc.
L'inconscient, l'intelligence de...
Ouais. Mmh. Bon, c'est bon. Alors, on se fait une petite pause.